Présentez-vous avec lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le peuple dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Je ne sais pas si vous avez compris ce psaume. Ceux qui sont allés aux études bibliques l'ont entendu ou lu plusieurs fois, puisqu'il a été travaillé lors des études sur le culte. Je me demande des fois dans notre Église si on pense, on réfléchit aux mots qu'on utilise. On a des fois un vocabulaire un peu particulier. Je vais vous donner quelques exemples. Majesté, assaillons les villes. Gloire, béni soit-il sur le mont du Calvaire. Il règne, digne, la trompette sonne. Souverain, sacrifié, couronné, l'armée du roi. Franchissons les murailles. Kyrie eleison, lion, agneau, prosternons-nous. Vous avez tout compris ? C'est bizarre, hein ? Le vocabulaire qu'on utilise, c'est un vocabulaire des fois vraiment propre à l'Église, propre à nos milieux. Mais Dieu s'est révélé à un peuple, et il s'est révélé dans ses traditions, dans la compréhension du peuple à l'époque. Jésus, il a débarqué au milieu des Juifs, parmi les Romains en plus. Donc empereur, empire, royaume, majesté, c'était des mots du moment. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons profiter de louer Dieu. Déjà louer, vous savez ce que ça veut dire ? Pas forcément. Hein. Dire du bien de Dieu. Nous voulons l'adorer, Jésus, adoré par le Saint-Esprit. Et après, pendant la Sainte Cène, nous aurons aussi l'occasion de prier avec nos mots, nos pensées, nos conceptions orientées vers notre Dieu. Utilisons notre vocabulaire, ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Cela fera du bien à Dieu et à nous. Et puis si on n'y arrive pas, ce n'est pas toujours donné, on peut demander l'aide du Saint-Esprit. On va vous relire ce psaume.
Son sang. Son de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous et nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons nous tourner vers toi de tout notre cœur, que tu nous remplisses de ta vie, que nous soyons à ton écoute. Merci pour ta présence, merci pour l'amitié qui nous lie, merci parce que tu nous aimes les uns et les autres. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, nous allons continuer avec la fête. Nous allons passer un moment à louer Dieu. Et ce moment de louange sera suivi par la Sainte Cène qui s'adapte assez bien à la louange.
Oui, nous venons devant Dieu pour le louer. Nous voulons aussi louer Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, dit Jean dans son évangile. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jésus était la parole devenue homme. Il a vécu parmi nous. et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Je vous invite de vous lever et de chanter avec moi. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être là ce matin. Nous ne sommes pas venus juste par habitude, mais nous pouvons acclamer qui est notre Seigneur ce matin grâce à ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous.
Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir, par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, tu t'as ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout.
Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À ton honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur. Tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Voyez ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livre au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À ton honneur, roi serviteur, apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons.
mérite. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur.
T'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire puisse l'univers.
À prendre place, justement un peu de temps. L'Épître aux Hébreux dit ceci: à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant dans ces jours qui sont les derniers, à nous il a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils et le rayonnement de la gloire de Dieu est l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Ça, c'est le message que nous célébrons ce matin, mais également le message que nous voulons proclamer en dehors aussi de l'Église. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour le monde entier. Il est l'espoir des nations dans un monde qui en a besoin, dans un monde où il manque de l'espoir. Jésus, il soutient ceux qui pleurent. Il connaît ce que c'est la détresse, la souffrance. Il est la source de tout espoir sur terre. Chantons Jésus, espoir pour des nations.
Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu. Tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Et nous croyons.
Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent.
Tu es la source de tout espoir sur terre.
Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps.
Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu. Tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons.
Et en pensant à la scène que nous allons prendre ensemble, nous pensons aussi au sacrifice que Jésus a donné en donnant lui-même, en s'humiliant jusqu'à la mort. Et nous voulons lui dire merci.
Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé, je suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Mais aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es
suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci, à nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci. À nouveau, je réponds ma vie.
Voilà, on va laisser les enfants retourner, enfin, aller à l'école du dimanche. Et nous allons continuer avec la Sainte Cène. Alors, je passe la parole à Jacques Rosset, que vous connaissez certainement bien.
Tout à l'heure, nous avons vu défiler plein de mots. Que de questions on peut se poser par rapport à ces mots. Dans mon introduction à la scène, j'aimerais encore laisser trois questions. Des questions qui concernent Dieu. Cette première question, à quoi ressemble la présence de Dieu ? Déjà du temps de Moïse, les Israélites, ils se posaient cette question, certainement même celle-ci aussi. Ils se demandaient à quoi ressemblait la présence de Dieu. Première question. Ils se demandaient à quoi ressemblait la voix de Dieu. Et ils se demandaient à quoi ressemblait sa gloire, la gloire de Dieu. C'est vrai qu'à cette époque, c'était normal qu'ils se posent cette question, que le peuple, que les Israélites se posent ces questions, parce que seul Moïse le savait. Seul Moïse était en relation avec Dieu. Il expérimentait ce que Dieu lui disait. Probablement, la majorité des Israélites étaient satisfaits de cet état de fait. C'est Moïse, pas nous. Le peuple demeurait à une certaine distance, tandis que Moïse, que lui seul, s'approchait de Dieu. Cela ne ressemble-t-il pas étrangement aux chrétiens du dimanche ? Ces chrétiens du dimanche qui sont satisfaits d'entendre parler de Dieu une fois par semaine. On écoute le prêche. Oh, qu'il était beau ! Oh, le pasteur, il a bien parlé ! Quand Moïse revenait, le peuple accourait vers lui et lui demandait « Dis-nous ce que Dieu t'a dit ». Était-il satisfait du discours ? Avons-nous peur de rencontrer ou d'entendre Dieu ? Ce matin, encore, tous ici, on est venu dans la présence de Dieu. Oui, dans la présence de Dieu, il est là, au milieu de nous. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, il est là. Et ce matin, on est venu aussi entendre sa voix. Faites ceci en mémoire de moi. Et on va entendre tout à l'heure encore sa voix par sa parole dans le message de Philippe. N'allez pas lui dire à Philippe après, « Oh, t'as bien parlé !» Parce que Philippe, il va nous donner un message, mais un message de Dieu. C'est Dieu qui nous parle à travers la bouche de Philippe. Maintenant, nous allons nous souvenir des souffrances du Seigneur par ce pain, par ce vin, par ces signes. Ensemble, avec tous les croyants sur cette terre, nous allons pouvoir nous rappeler, nous souvenir des souffrances du Seigneur. C'est encore une faveur aujourd'hui de le louer, lui dire merci, quelle gloire.
Nous lirons l'institution dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Car voici l'enseignement que je vous ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe.
Nous allons prier. Merci, Dieu et Père, parce que tu es là, au milieu de nous. Nous venons de lever ce pain, de lever cette coupe. Ce pain qui nous rappelle ton corps qui a été donné pour nous. Ce vin qui nous rappelle ton sang qui a coulé, qui a versé pour nous. Oui, Dieu et Père, nous te remercions. Et à toi, Seigneur Jésus, nous te remercions aussi parce que tu es venu. Tu as dit « j'irai », tu es descendu jusqu'à nous. Tu as souffert, tu as été jusqu'à la croix, tu es mort, mais ressuscité. Et maintenant, tu es dans le ciel. Et nous, Seigneur, avons ce privilège de savoir que bientôt, nous serons avec toi pour toujours. Merci, Dieu et Père, pour cet amour merveilleux. Amen.
Voilà, nous allons procéder à la distribution. On aurait besoin de 2 personnes pour nous donner un coup de main, s'il vous plaît. Nous prierons encore. Seigneur, merci parce que tu nous invites à ta table. Merci parce que tu nous as donné ta vie pour que nous puissions vivre avec toi toute notre vie et pour l'éternité. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es vivant encore aujourd'hui. Amen. Voilà, nous allons lire 2 textes maintenant qui... en rapport avec la prédication, sur le thème de Jésus, c'est un thème connu, mais Jésus, homme. Alors le premier texte, c'est dans Matthieu, c'est l'histoire de, juste après la naissance de Jésus, quand les parents de Jésus, Joseph et Marie, doivent prendre une décision. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans, Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie en entendant une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparaît dans un rêve, à Joseph en Égypte. Il lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère, retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos avait succédé à son père Hérode comme roi de Judée. Alors il eut peur de s'y rendre. Il reçut des nouvelles indications dans un rêve et il partit pour la province de Galilée. Il alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole des prophètes. Il sera appelé Nazaréen.
Je vais lire Marc 6, versets 1 à 6, dans la version Darby. Et il sortit de là et vint dans son pays, et ses disciples le suivent. Et le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et plusieurs, l'ayant entendu, étaient dans l'étonnement, disant : D'où viennent ces choses à celui-ci ? Et quelle est cette sagesse qui lui est donné, et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains. Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, auprès de nous? Et ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit, « Un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, et il visitait l'un après l'autre les villages à la ronde en enseignant. » J'aimerais juste reprendre ce verset 6. Je vais changer un tout petit peu, on ne doit rien changer dans la Bible, mais je veux le mettre pour moi. Je visiterai l'un après l'autre les habitants de mon immeuble en enseignant.
Bonjour à chacun, chacune. Les décos de Noël ont presque toutes disparu. On trouve encore quelques sapins secs au pied des immeubles. Mais Noël est derrière nous. Nous avons passé en revue les grands textes bibliques qui parlent de la venue au monde de Jésus, le Messie. Sa naissance a été fêtée, et puis l'épiphanie, c'était il y a 15 jours, pour célébrer la manifestation du Christ aux savants venus d'Orient et représentant toutes les nations. Mais Noël, c'est derrière nous. En même temps, s'il restait encore un aspect à évoquer, ce pourrait être la fuite de Marie et de Joseph en Égypte pour échapper au massacre des enfants de Bethléem. Ça fait partie des récits de la Nativité. Noël, ce n'est pas que doux, c'est amer, dur aussi. Le massacre des enfants de Bethléem. Et puis, les voici de retour dans leur pays, en Israël. Jésus a été un réfugié. Jésus a connu les affres et les exigences de l'exil. Puis, il est rentré chez lui, à Nazareth. Et ce matin, c'est ce retour chez lui, à Nazareth, que je voudrais explorer un peu avec vous. Tout en habitant au nord du pays d'Israël, Marie et Joseph avaient des liens avec le sud, parce qu'ils descendaient du roi David, comme beaucoup d'autres Israélites. Dès lors, ils considéraient Bethléem comme leur village ancestral, en bas, au sud. Ils avaient de la parenté dans la région. Et Jésus, on le sait maintenant, est né là-bas. Mais Jésus n'est jamais appelé le Bethléemite. Jésus n'est jamais appelé l'homme de Judée, le sudiste. Ou bien il est appelé le Galiléen, ou alors il est appelé, comme dans le premier texte que nous avons lu en Matthieu 2, les versets 13 à 23, Jésus de Nazareth. Et c'est bien ce que Pilate inscrira sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est significatif que Jésus soit de Nazareth? Eh bien, pour Matthieu, en tout cas, c'est significatif. Parce qu'il écrit, Matthieu 2, verset 23, « Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. » C'est que pour Matthieu, c'est important. On l'appellera le Nazaréen. Et là, on a un problème. C'est qu'aucun texte de l'Ancien Testament ne dit « on l'appellera le Nazaréen ». Et Matthieu dit « ainsi s'accomplit une parole de prophète, on l'appellera le Nazaréen ». Mais l'Ancien Testament ne dit rien. Alors aujourd'hui, quand des commentateurs modernes essayent de voir à quoi pourrait correspondre cette parole des prophètes, ils se retrouvent devant un choix de 5 ou 6 options différentes dont je pense vous épargner les détails. Alors moi j'ai une petite préférence qui va vers une interprétation qui souligne que le Messie à venir est parfois appelé le Netzer, ce qui signifie le rameau, la branche, le rejeton. Et selon Ésaïe 11, verset 1, c'est bien un rejeton qui sort du tronc d'Isaïe, le père de David. C'est que l'arbre a été coupé, il n'y a plus de roi de la descendance de David, mais dans le vieux tronc, il reste de la sève, il reste de la vie, et tôt ou tard, un rejeton poussera, un rameau, un netzer. Et il y aura donc là, me semble-t-il, un jeu de mots dont la Bible a le secret. Le rameau annoncé vient de la ville Rameau, Nazareth. Jésus le Nazaréen, Jésus le rameau. Alors, il faut que je vous avoue un truc, c'est que les jeux de mots en hébreu, pour moi, c'est du chinois, c'est pas mon fort. Donc, je vais plutôt explorer d'autres aspects de la question, tout en disant Jésus de Nazareth, c'est significatif. Jésus fait le choix d'une identité précise. Il est de Nazareth. Celui qui est la parole de Dieu est devenu homme et il a vécu parmi nous. Où donc ? À Nazareth. Il n'était pas possible que Jésus vienne sur terre comme une sorte de gentil robot japonais. Vous savez, avec des grands yeux, pour le rendre plus sympathique. Ou alors avec un visage mi-homme, mi-femme. Ou en parlant toutes les langues à travers une sorte de Google Traduction. Pour devenir un véritable être humain, Jésus devait être un homme ou une femme. Il devait appartenir à une famille précise. Il avait une ville de naissance, Bethléem. Mais il avait une ville d'adoption, Nazareth. Il avait une région qui était la sienne, un Galiléen. Il avait un pays qui était le sien, Israël. Des racines. Jésus parlait au plus trois langues, mais ni apache, ni arabe, ni arménien. L'incarnation, le fait de devenir un être humain, impliquait que Jésus devenait un être humain spécifique. Jésus de Nazareth. Pas un modèle universel, mais un modèle unique. Et c'est ce qui donne une force incroyable au témoignage des apôtres. Jean 1, verset 18. « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils envoyé par le Père, Jésus de Nazareth. » Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, que Jésus soit né homme ne signifie pas qu'il n'aime pas les femmes. Qu'il soit né juif ne signifie pas qu'il n'aime pas les Suisses. Qu'il soit de Nazareth ne signifie pas que mes reins ne soient pas concernés, que mon immeuble ne soit pas concerné. S'incarner dans une identité précise, c'est un peu paradoxal, mais ça signifie l'amour pour toute l'humanité, pour l'humanité réelle, dans son immense diversité, en excluant personne. Certains artistes ont voulu l'affirmer en faisant des tableaux où le crucifié est une femme, ou un Africain. Sur le plan des symboles, ce n'est pas tout à fait faux. Mais un symbole n'a aucune puissance s'il n'y a pas derrière une réalité historique. On s'en affranchirait à tort. La Bible dit donc que Jésus a grandi à Nazareth en étant soumis à ses parents, comme n'importe quel enfant. Luc 2, verset 52, « Il grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Pas mal comme programme d'enfance. Mais c'est tout ce que la Bible dit. Et on reste un peu sur notre faim. Mais nous n'allons pas pour autant aller nous nourrir auprès des évangiles apocryphes ou gnostiques qui cherchent un enfant Jésus pas comme les autres, faisant pendant son enfance des miracles bizarres et gratuits. Il y a bien un passage des évangiles qui nous donne quelques éléments de plus. C'est le deuxième passage que nous avons lu en Marc 6, les versets 1 à 6. C'est donc le tout début du ministère public de Jésus. Il a déjà appelé ses premiers disciples, il a enseigné à Capernaum, il a déjà fait de nombreux miracles. Mais quand il revient chez lui, à Nazareth, dans sa ville, eh bien les gens, là, n'arrivent pas à croire en lui. Ils le connaissaient trop bien. Ils ne peuvent pas imaginer que ce jeune homme qui a grandi chez eux, qui a grandi parmi eux, soit autre chose que ce qu'ils ont toujours connu. N'est-ce pas le charpentier ? Disent-ils. N'est-ce pas le charpentier ? C'est donc que Jésus exerçait le métier de charpentier. Je sais qu'en français, on distingue entre le charpentier et le menuisier, puis entre le menuisier et l'ébéniste. Pour les évangiles, c'est nettement moins précis. Un charpentier, ben, il travaille le bois, avec tout ce que cela implique de compétences, de finesse, pour tous les métiers du bois. C'est lui, Jésus, le charpentier. Et Joseph, alors ? Ben, il n'est plus là. Sans doute décédé depuis un certain temps. C'est lui le charpentier maintenant. C'est Jésus le charpentier. Et ce n'est pas l'un de ses frères. C'est à l'aîné que revient la succession. L'atelier de Joseph, les outils de Joseph, eh bien c'est maintenant l'atelier et les outils de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus parte prêcher pendant 3 ans environ sur les routes à l'âge de 30 ans. Je remarque ici que Jésus et l'apôtre Paul avaient ceci en commun. Ils avaient tous les deux les mains rugueuses des travailleurs manuels. Et je trouve heureux qu'en Suisse, on pense que les filières manuelles sont des filières de qualité. Ils ont été bien précédés. N'est-ce pas le charpentier ? N'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et puis ses sœurs ? Est-ce qu'elles ne vivent pas là, parmi nous ? Marc 6, verset 3. Les frères et les sœurs de Jésus. Et nous prenons ces mots au pied de la lettre, n'est-ce pas ? Même si nous voulions suivre certaines traditions et écarter l'idée que Jésus avait de véritables frères et sœurs, nous pouvons tous être d'accord sur un point, Jésus a partagé la vie de famille avec au moins 6 autres enfants, 4 frères, des sœurs, au moins 6. N'est-ce pas le charpentier ? Et les autres ? Ben, on ne sait pas trop ce qu'ils en pensaient les autres, sauf sur un point, quand Jésus commence à attirer les foules, quand Jésus commence à enseigner, quand Jésus commence à guérir, eh bien ses frères, Jean 7, verset 5, ses frères ne croient pas en lui. Ses frères ne croient pas en lui. Bien sûr qu'il sort du lot. Bien sûr, il donne cette impression d'usurper le rôle du rabbin. Bien sûr que Jésus dit des choses qui rompent avec la tradition. Alors les frères et les sœurs essayent de le ramener à une vie plus raisonnable, si ce n'est pas de l'arrêter même. Et puis Marc 3, verset 32, nous dit même qu'ils entraînent Marie avec eux. Donc il vient un moment où Jésus n'est plus soumis à sa mère. Il vient un moment où Jésus n'est plus emprisonné par le regard de ses frères et sœurs, par le regard des gens de son village. Il vient ce moment-là où Jésus prend des ailes et il s'offre à son Père céleste dans son baptême. Il s'offre à tous les hommes dans son ministère. Il va dire désormais, Marc 3, versets 33 à 35, « Qui sont ma mère et mes frères ? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » La Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous à tous égards. Hébreux 4, verset 15. Et ça me parle très fortement. Parce que ça veut dire que Jésus a connu ce que c'est de ne pas être compris dans sa propre famille. Ne pas être compris par sa mère, ne pas être compris par ses frères et sœurs, il sait de première main ce que c'est. Devoir faire autrement que ce que la famille veut. Faire la volonté de Dieu en mécontentant ses frères et sœurs. Christ est devenu un être humain comme nous. Et c'est là que nous contemplons sa gloire. Pas seulement sur la croix, pas seulement dans les miracles éclatants, pas seulement quand il ressuscite Lazare, mais dans le quotidien d'une vie normale. Incompris, nous contemplons sa gloire. Et puis il y a autre chose encore. Quand les gens de l'époque disent que Jésus est de Nazareth, c'est souvent péjoratif. C'est souvent méprisant. Nathanaël dit par exemple, Jean 1, verset 46, « Que peut-il venir de bon de Nazareth ? » Est-ce qu'il y a un truc valable qui viendrait du Nord ? La réponse, quand on pose cette question « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» La réponse, en creux, c'est évidemment rien. Rien de bon peut venir de Nazareth, un petit bourg de province, loin de tout, un petit village sans gloire. Voyez l'immense prestige de Jérusalem, voyez le destin royal de Bethléem, vous voyez la richesse de Jéricho. Ben rien de tout ça à Nazareth, rien de tout ça. Que peut-il venir de bon de Nazareth ? C'est avec le même sous-entendu que l'on parle de Jésus le Galiléen, province du Nord, autrefois lieu de passage des armées assyriennes, puis babyloniennes, mélange de cultures juives et grecques, une population qui a des gènes un peu métissés. En plus, Matthieu 26, verset 73, on découvre qu'à Nazareth, ils ont un de ces accents. Comment imaginer alors qu'un prophète pur jus puisse venir de la Galilée ? En matière de mépris, cela aurait pu être pire et ça l'a été au moins une fois quand la foule a dit, Jean 8, 48, « Nous avions bien raison de dire, tu n'es qu'un Samaritain !» Toujours le même mépris. À l'égard de Jésus, toujours le même mépris. On ne juge pas Jésus pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il dit, mais on le juge sur ses origines. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Il y a un mot pour cela en français. C'est le mot discrimination. Discrimination. T'as un nom ou un prénom qui sonne d'ailleurs. Tu viens du mauvais quartier, du mauvais pays, t'as un accent étranger ou paysan, eh ben ton compte est bon. C'est le même sous-entendu dans les propos bien peu amènes du président Trump à l'égard d'Haïti ou à l'égard du continent africain. Et je vous passe les détails parce qu'on les a entendus cette semaine, mais... Que peut-il venir de bon de là-bas ? Que peut-il venir de bon d'Afrique ? Que peut-il venir de bon d'Orient ? Que peut-il venir de bon d'Asie ? Eh bien, la réponse est Christ. Son corps, sa famille, la beauté, la diversité, la ténacité. Courage. Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Il nous faut faire un grand effort de volonté pour nous affranchir, nous, de ces réflexes, de ces préjugés, de cette méfiance, de cette distance. Mais ce qui me motive pour progresser dans ce domaine, c'est la parole du Seigneur Jésus lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer sans distinction. Je vous invite à admirer le parcours que le Seigneur Jésus a suivi. Un parcours qui ne passe pas par les beaux quartiers. Un parcours qui passe par la banlieue. Un parcours qui ne passe pas par la rue du Rhône ou la Coratrie, mais par le Lignon ou Mérincité. Il me faut conclure. nous, les Nazaréens. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça aussi, Jésus l'a dit. Avec l'annonce de l'évangile dans le monde, on ne savait pas encore trop comment appeler les disciples de Jésus. À Antioche, on les a appelés des chrétiens. Et ça avait un ton de moquerie. Chrétien, c'est petit Christ. On les reconnaît pour disciples de Christ. Mais il y a du mépris derrière. Des chrétiens. Des petits Christ, là. Dans les lieux de pouvoir, à Jérusalem, à Césarée, on parle là plutôt de la secte des Nazaréens. Acte 24, verset 5. La honte. Nous, les Nazaréens, la honte. Nous portons son opprobre. S'il a été appelé Nazaréen, moi je suis fier de porter ce nom à mon tour. Je renonce alors à mes rêves de grandeur, à mes rêves de succès, à mes rêves de reconnaissance. Je porte son nom. Je m'identifie à lui, le Nazaréen. Le dimanche de Noël, j'ai regardé la messe télévisée qui était célébrée justement depuis Nazareth. Bien évidemment, le faste d'une messe dans la tradition catholique avec tous ces habits spéciaux, avec ces gestes millimétrés, tout cet encens, cela n'a pas grand-chose à voir avec nos cultes évangéliques actuels. Une messe moitié en arabe, moitié en latin. Il fallait bien qu'il y ait un commentateur francophone pour suivre ce qui se passait. Mais il y a deux choses qui m'ont frappé. D'une part, le commentateur a dit la chose suivante, depuis Nazareth. Depuis 2000 ans, ces familles n'ont pas bougé. Nous sommes certainement en présence de quelques cousins éloignés de Jésus. Jésus a pris racine dans une terre précise, celle de Nazareth. Puis d'autre part, j'ai regardé ces hommes et ces femmes plutôt dans la cinquantaine, voire dans la soixantaine. Je les ai regardés qui récitaient ensemble le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et je me suis dit, quand est-ce que la bombe va exploser? Voilà des Orientaux qui confessent le nom de Jésus. En mondiovision. Quand est-ce que la bombe va exploser? Ces gens très ordinaires qui affirmaient leur foi en Christ dans un contexte si particulier, minoritaire, discriminé depuis des siècles, mais qui se reconnaissent dans Jésus-Christ, leur Sauveur. Quand nous disons, nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, je suis conscient, douloureusement conscient, qu'il peut nous coûter de dire une telle prière. En particulier, si compte tenu des circonstances, quelque chose nous reste à travers la gorge, si un reste de fierté est mis à mal, si des relations sont piquées au vif, ça peut me coûter, mais ça ne me coûtera jamais la vie. Je conclus. On l'appellera le Nazaréen à cause de la consonance prophétique de ce nom. Jésus vient d'une petite ville. En lui donnant une identité humaine précise, et cette identité humaine précise impliquait l'exposait au mépris, à la discrimination, Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je contemple la gloire de ce Jésus-là et je me lève pour porter son nom. J'en suis fier et reconnaissant. Jésus de Nazareth. Amen.
Voilà, nous allons passer à l'offrande et nous vous invitons à offrir une partie de ce que vous avez reçu, ce que vous avez, pour le service dans l'église, pour les pasteurs, pour le service dans les bâtiments et aussi pour tous ceux qui sont au loin, qui travaillent pour annoncer l'évangile, pour partager leur foi. Alors nous allons chanter le numéro, bon, je l'ai plus, ah oui, 945.
Alors nous allons chanter un chant qui parle aussi de Jésus qui revient, Jésus qui règne dans les cieux aujourd'hui, peut-être un chant qui est nouveau, donc on va peut-être le chanter une fois, la première strophe, et puis on va le reprendre. Et pour toujours, il règnera.
Quelle vision devant mes yeux apparu comme un fils d'homme. Il venait sur les nuées et s'approchait d'un grand trône.
Et puis le refrain.
Et pour toujours il règnera, à lui le trône pour l'éternité. Oui, pour toujours il règnera, nous régnerons aussi.
On va le reprendre dès le départ.
Quelle vision devant mes yeux apparu comme un fils d'homme. Il venait sur les nuées et s'approchait d'un grand trône.
Tout pouvoir.
Tout pouvoir lui fut remis, la gloire et l'autorité. À leurs peuples et nations, à genoux l'ont adoré. Et pour toujours il règnera, à lui le trône pour l'éternité. Oui, pour toujours il règnera, nous règnerons aussi.
Je vous invite de vous lever pour le chanter la dernière strophe.
vois l'agneau qui s'est donné, il est assis sur le trône. Vois les marques de la croix, éternel signe d'amour. Et pour toujours, il règnera à lui le trône pour l'éternité. Oui, pour toujours, il règnera, nous régnerons aussi. Et pour toujours, il règnera à lui le trône pour l'éternité. Oui, pour toujours, il règnera, nous régnerons aussi.
Pour asseoir, nous allons prier. Seigneur, que cette somme d'argent récoltée serve vraiment à l'avancement de ton règne, à la publication de l'Évangile, ici et ailleurs, que tous ceux qui s'engagent pour toi dans cette communauté puissent vraiment être bénis, être conduits et vraiment annoncer ton Évangile à Mérin et ailleurs. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons passer aux annonces. Alors on ne sait pas qui fait les annonces. C'est Elisabeth.
Alors, les annonces. Je vais regarder avec vous. Ça dépasse. Alors, mardi 23, l'atelier biblique, donc c'est une série sur les cultes, c'est un très vaste sujet, donc on vous recommande, il y a plusieurs, vous avez vu qu'il y a toute une série, donc venez nombreux, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, depuis 19h30, il y a une petite collation, et 20h, la séance tous ensemble. Mercredi 24, conférence sur Jean Hus, par Joseph Benesch, je crois qu'il en avait déjà commencé à en parler dans un culte de l'été. Alors, mercredi à 20h. Jeudi, c'est une soirée bien, une semaine bien remplie. Alors, la première du Petit Prince, je crois que Thomas n'est pas là aujourd'hui, mais il l'a déjà annoncé dimanche dernier. Donc, c'est une pièce théâtrale, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous connaissez, ça va être certainement très, très, très intéressant. Donc, ça se fera ici. Alors, venez nombreux pour encourager Thomas et ce sera très bien. Dimanche prochain, culte du groupe de jeunes qui vont nous faire vivre un petit peu de ce qu'ils ont vécu, eux, pendant leur camp de ski. Alors, venez aussi pour les encourager et puis découvrir, savoir ce qu'ils ont vécu pendant ce camp. Philippe était avec eux, donc on en saura aussi un peu plus. Mardi 30, donc la semaine d'après, c'est la prière communautaire ouverte à tout le monde. Alors, c'est des moments très, très forts pour la communauté. Alors, venez nombreux. Dimanche 4 février, grande journée inter-église par le réseau évangélique. Donc, il n'y aura pas de culte ici. Ça se passera à Palexpo. Ça se passe toute la journée, hein, je comprends, une bonne partie de la journée, du dimanche. Il y a des papillons à la sortie avec tout le programme dont vous pouvez vous servir, si vous voulez. Hein. Voilà, vous avez même le programme ici. Privilégier les transports publics, moyen parking, mais voilà, c'est vrai. Donc voilà. Mercredi 31 janvier, la semaine suivante, conférence par le père jésuite. Syrie, 7 ans de guerre, quelle société aujourd'hui? Ça aussi, c'est un grand sujet. Alors, à 19h15, salle paroissiale de l'église du Christ roi au Petit Lancy. Alors, Daniel va parler du spectacle.
Alors, le spectacle, l'autre Dieu. Vous avez parfois peut-être subi des injustices au travail,
Vous avez peut-être perdu un être cher, vous avez perdu de l'argent parce que quelqu'un vous a volé. On a tous parfois des injustices. Alors on aura le privilège d'avoir cette lecture accompagnée de piano qui sera faite par Nouria Chollet sur la base du texte et du livre de Marion Muller-Koller, qui est une dame qui a écrit plusieurs livres, dont L'autre Dieu, qui était à vendre et qui était vendu aussi ici dans cette église. Alors on vous invite à venir, bien sûr, et faire de la publicité autour de vous. Il y aura des papillons la prochaine fois. Et on vous recommande vraiment de venir voir cette pièce. C'est extrêmement intéressant, c'est très profond. Et c'est basé sur l'histoire de Job. Le pauvre Job qui avait de la famille, qui avait des filles, des moutons, des fils. Il avait énormément d'argent, énormément de terrain. Et d'un coup, il a tout perdu. Et ensuite, comme ça ne suffisait pas, c'est pas juste d'ailleurs, et on lui a encore retiré la santé. Il avait une espèce d'ulcère malin qui le bouffait la peau, pour parler durement, et pourtant il n'a pas renié Dieu. Donc cette dame, l'auteur, est une aumônière qui a visité des malades dans les hôpitaux et qui s'est rendu compte qu'il y avait souvent de l'injustice. Et souvent, les malades disaient « Mais pourquoi moi ? Pourquoi j'ai un cancer ? Pourquoi je me suis cassé la jambe ? Pourquoi on m'a volé ? Pourquoi on m'a fait ci ?» Effectivement, Job donne une explication. Mais vous aurez d'autres explications si vous venez de cette soirée.
Voilà, vous avez déjà vu l'annonce dimanche dernier. Besoin de renfort pour le nettoyage des locaux. On apprécie d'avoir des locaux bien entretenus, mais pour ça, c'est bien qu'il y ait du monde. Donc, il y aurait besoin encore de quelques personnes supplémentaires. Alors, si vous êtes disposé à participer à ce service pour l'Église, vous pouvez vous annoncer à Claire-Lise Sorex. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais il y a d'autres dimanches pour le faire. Elle a dit qu'elle était même disposée à vous montrer comment on utilise le matériel. Voilà. Pendant que je suis dans les services de l'Église. Non, alors c'est ouvert à tout le monde. Exactement, aussi aux messieurs. D'ailleurs, je peux vous dire que dans notre groupe, il y a un monsieur, il montre aux dames comment il faut faire. Il est très, très méticuleux dans mon groupe, le monsieur. Voilà, si vous avez pas entendu, au début, quand les locaux ont été mis en service, l'idée, c'était que tout le monde participe, y compris les pasteurs. C'est un peu rude, hein, mais c'est une bonne manière de resserrer les liens. Voilà. Et pendant que dans les services, un autre service qu'on peut rendre à l'église, vous avez vu, tous les dimanches, il y a des fleurs. Et puis, ces fleurs, elles viennent pas toutes seules. Donc, il y a des personnes qui les apportent. Je profite de les remercier. Mais si on pouvait étoffer un peu la liste, ça m'arrangerait aussi. Alors, si vous avez envie, ça aussi, c'est pas réservé qu'aux dames. Hein. Les messieurs, d'ailleurs, on a un monsieur qui nous fait des magnifiques bouquets. Donc, si vous avez envie d'apporter votre touche au culte de cette manière-là, plutôt que de parler, c'est une excellente manière de le faire. Alors, venez me le dire après. Voilà, vous pouvez vous inscrire, voilà. Ouais. Dimanche dernier, on a prié pour Alexandre. Je crois qu'il y a des bonnes nouvelles, que ça se passe bien, mais on peut continuer à penser à lui. Il revient au début de la semaine, il revient demain, mais voilà, priez pour son retour, mais tout se passe bien jusque-là. Alors, le nouveau site Internet, ceux qui sont connectés, ils ont reçu un message comme quoi on peut des directives un peu pour se connecter. Si vous n'êtes pas tout à fait au clair, vous pouvez vous adresser à Sylvain Wenger, il vous expliquera tout comment ça fonctionne. Voilà. Et puis bravo et merci à toute l'équipe qui a fait un travail vraiment un énorme travail pour faire ce site. C'est pas toujours facile, mais ils ont fait un énorme travail. Il est très très bien fait ce site. Alors allez le consulter et puis connectez-vous. Voilà. Philippe, encore une. Philippe a une annonce à faire.
Juste quelques flyers, un résumé, disons, de tout ce qu'on a fait donc, dans les rues basses avec le stand. C'est un tout petit résumé. D'ailleurs, il est tellement petit qu'il faudra des loupes pour voir. Mais disons, là-dessus, vous aurez aussi deux, trois petites choses pour prier pour les personnes qui ont passé au stand.
Deux courtes annonces. La première, pour vous dire que nous aurons l'immense privilège d'accueillir pendant une petite semaine seulement une stagiaire ici que vous connaissez, c'est Aurélie Jeunecamp, qui dans le cadre de ses études à la HET Pro passera une semaine de stage avec nous du 2 au 9 février. Et nous conclurons cette semaine de stage par le culte qu'Aurélie présidera. Merci de lui faire bon accueil. Elle est malade ce matin, mais je trouve ça très réjouissant, voilà, d'avoir une stagiaire pour quelques jours. Et puis, vous dire encore que nous envisageons un service de baptême avant l'été et que si donc le sujet vous intéresse, vous interpelle, vous pose question, si vous êtes concerné de première main, n'hésitez pas à venir nous voir, Claude ou moi, et nous organiserons sous peu quelques rencontres de préparation, l'espace de deux ou trois après-midi ou soirées. Merci de venir trouver donc Claude ou moi si le sujet vous interpelle. Merci. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et je lis Apocalypse 1 au verset 6. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, soit avec vous tous les jours de cette semaine, vous accompagne et vous renouvelle. Amen. Un bon dimanche.